It is the word
identification, s'il vous plaît,
that has been pulled over your eyes to blind you from the truth.
What truth?
There's nothing fake.
Qu'est-ce que vous voulez?
Identification, s'il vous plaît.
Bonsoir et bienvenue dans Pop Fiction en direct de la Maison de la Radio, une émission préparée par Jérôme Boulet et Lilith Sahakian, réalisée par François Audouin et Anne-Sophie Ladonne, programmation musicale Muriel Pérez. Et je vous propose ce soir une sélection placée sous le signe de la science-fiction, du fantastique et de l'épouvante. Bonsoir Guillemette Audicino.
Bonsoir Ali.
La Dame Blanche de Télérama, comment ça va depuis tout ce temps?
Mais ça va très très bien, même si je vais vous parler de films où le monde va particulièrement mal.
Et oui, vous nous proposez ce soir quelques films d'anticipation disponibles en DVD et en Blu-ray. Bonsoir François Bon.
Bonsoir.
Écrivain, l'auteur d'Autobiographie des objets ou de l'incendie de Wilton, également responsable du site Le Tiers Livre. François Bon, vous évoquerez trois œuvres de l'un des maîtres de l'épouvante, Howard Phillips Lovecraft, publié en poche au Seuil et que vous avez retraduit.
Ouais. Je suis tombé dedans il y a 5 ans à Providence et depuis ça fait partie de ma vie.
C'est le premier qui sort.
À tout à l'heure. Bonsoir Jérémy Chevalier.
Bonsoir. Alice.
Libraire chez Gilbert Joseph à Paris, dans le 18e arrondissement. Vous choisirez quelques bons ouvrages de science-fiction parus dernièrement et qui plairont peut-être à ceux qui n'aiment pas la SF. Et nous reviendrons avec vous sur l'œuvre de l'un des grands maîtres de la science-fiction, récemment disparu, Terry Pratchett, le célèbre auteur des Annales du Disque Monde.
Oui, c'est exactement. J'espère que ça va vous séduire, cette trilogie que j'ai choisi, et ça me fait très plaisir de parler de Pratchett.
Bonsoir Tanegui de Kerpoisson.
Bonsoir.
Journaliste notamment au Parisien Magazine, ultra geek, vous avez choisi quelques séries surnaturelles visibles sur nos écrans en ce moment.
C'est ça, Forever notamment, avec un médecin légiste immortel. Et on a choisi Powers aussi, Powers qui nous montre une brigade qui va essayer d'arrêter des super vilains à la place des super héros qui sont devenus des drogués déchus.
Et puis, avec nous également deux autres geeks assumés, grands spécialistes de jeux vidéo. Olivier Bénis, bonsoir.
Bonsoir Ali.
Journaliste à France Inter. Et Julien Chiez, rédacteur en chef ou directeur de la rédaction.
Rédacteur en chef,
voilà, du site Gameblog.
Bonsoir.
Du site Gameblog.fr. Alors messieurs, petite bande-annonce de votre sélection de jeux vidéo tout à l'heure. Olivier Bénis.
On va se balader avec moi entre manga avec les excès à la Dragon Ball et quelque chose de beaucoup plus comique avec du cartoon à la Tex Avery un peu sanglant.
Julien Chiez.
Ah ben on va pas rire du tout, ça va être exigeant, ça va faire mal avec l'un des jeux du père du masochisme ludique.
Et puis avec nous quelqu'un qui a toujours quelque chose à dire, hein, le cauchemar de Daniel Thompson, notre ours grognon préféré, le patron de Studio Ciné Live et chef du service culture de l'Express. Vous avez reconnu Eric Libio, juste venu pour nous enquiquiner.
Oui, oui, mais il paraît que...
Oui, qu'est-ce qu'il fait là?
Je ne sais pas, je vais peut-être passer ailleurs.
Merci d'être passé en tout cas, vous avez vu de la lumière?
Oui, c'est exactement. Ça doit être ma lumière, Annie.
Pulp, non pop, pop fiction. France Inter, Ali Rebéi.
Bienvenue, bienvenue, bienvenue. À présent, l'heure est venue de sélectionner, et comme toujours, les dames d'abord.
Ah, c'est pour moi.
Eh oui, les dames d'abord. Ben oui.
Je... Enfin, la dame d'abord, si je peux me permettre.
Oui, c'est, mais, oui, vous êtes très observatrice, Guillemette
Odissimo.
Guillemette, vous êtes venue avec quelques DVD,
oui.
Des films d'anticipation assez passionnants à découvrir ou à redécouvrir, comme Les Fils de l'Homme, le chef-d'œuvre du Mexicain Alfonso Cuarón, oscarisé l'an dernier pour Gravity. Les Fils de l'Homme, sorti en 2006, est passé un peu inaperçu.
I can't really remember when I last had any hope.
Je me souviens plus très bien quand j'ai commencé à perdre espoir.
And I certainly can't remember when anyone else did either.
Et encore moins quand tout le monde a commencé à le perdre.
Because really, since women stopped being able to have babies.
Franchement, à partir du moment où les femmes peuvent plus avoir d'enfants.
What's left to hope?
En quoi on pourrait bien avoir encore espoir?
Consternation générale aujourd'hui après l'annonce de la mort de Diego Ricardo, la plus jeune personne du monde. Le cadet de l'humanité était âgé de 18 ans, 4 mois, 20 jours, 16 heures et 8 minutes.
Guillemette Odissino, à mon humble avis, Les Fils de l'Homme, c'est un chef-d'œuvre.
Absolument, voilà. Alors, je suis bien de votre avis, très, très cher Ali. Bah, effectivement, je pense que c'est, on peut dire que, alors c'est un film qui date de 10 ans, mais déjà, il y a 10 ans, on disait que c'était le film d'anticipation de la décennie. Je me demande si encore là, dans les années qui viennent, ce sera encore le chef-d'œuvre de la décennie. C'est vraiment ce qu'il y a de particulièrement frappant dans ce film, c'est que c'est d'un réalisme. C'est-à-dire, ça commence comme ça, mais dans un Londres. Alors on est en 2027. C'est pas si loin. Mmh. Et un Londres qui est juste un tout petit peu plus crado, un tout petit peu plus pollué, sauf qu'on comprend, mais comme ça, de manière aussi simple et directe. Il n'y a pas, vous savez, ces trucs pédagogiques dans les films d'anticipation, on explique pendant 20 plombes que ça va pas bien, la société, non. Ce sont comme ça des annonces télé qui nous disent qu'en fait, le monde est devenu stérile. Les femmes ne font plus d'enfants. Le dernier enfant un peu jeune vient d'être assassiné. Il y a des problèmes d'immigration. Londres s'est refermée sur elle-même. Les immigrants sont rejetés à la mer. Il y a une espèce de dictature, mais vague, comme ça. Et il y a un réseau de résistance qui est dans lequel travaille Julianne Moore. Et elle va venir chercher son ex-mari, un type un peu déprimé, Clive Owen, parce qu'elle a une mission à lui confier. Alors, je vous dis pas ce que c'est que la mission, mais il s'est passé un miracle. Dans ce monde qui va à sa fin, il s'est passé un miracle et il va devoir préserver, sauver ce miracle, parce que peut-être que quand même l'humanité a un tout petit avenir.
Alors il faut rappeler que c'est une adaptation de la grande romancière britannique, l'impératrice du polar, P.D. James.
Oui, absolument, qui pour la première fois en fait, se lançait dans l'anticipation. Le film n'est pas tout à fait fidèle à P.D. James, parce que P.D. James, elle décidait vraiment que l'Angleterre était tombée ouvertement sous une dictature. Quaron, il balaye ça, il fait juste comme ça un monde d'anticipation qui est tombé dans la violence, mais sans vraiment désigner un état totalitaire. Et surtout, il en fait une mise en scène absolument incroyable, des plans séquences. Vous voyez, on suit ce héros, on suit ses résistants, on suit cet espoir qui est incarné par quelqu'un, je vais pas dire quoi, par des plans séquences absolument hallucinants. Il y a des scènes, par exemple, il y a une scène d'attaque de voiture.
Dans la voiture, c'est extraordinaire.
Dans la voiture, c'est extraordinaire, avec des hordes de sauvages, de barbares, puisque la société est en train de tomber vers la barbarie. Qui se précipite sur cette voiture. C'est une scène absolument incroyable. Je crois que j'ai rarement vu une scène aussi frappante. Quand on voit le film pour la première fois, on remet en arrière pour la revoir une deuxième fois. Et puis, il y a une scène aussi, pratiquement un peu quasi religieuse, de nativité.
C'est un film très biblique, hein.
C'est un film biblique, mais à sa manière, où on peut faire déposer les armes à des soldats. Juste avec un cri d'enfant.
Éric Libio, un film avec Michael Caine ne peut pas être mauvais.
Non, c'est vrai. Et comme une émission de radio avec Ali et Rébé.
C'est cela, oui.
Pour faire la lèche.
Pour un petit peu tirer les pompes. Ce qu'il y a de formidable avec Cuaron, il fait partie de ces grands metteurs en scène qui arrivent à redynamiser le film de genre. Il l'a fait avec Gravity, vous l'avez dit l'année dernière, le film de science-fiction. C'est sans doute un des meilleurs épisodes d'Harry Potter qu'il a mis en scène Cuaron.
Le prisonnier d'Azkaban.
Un film d'anticipation. Et c'est vrai qu'on se rend compte, que le film de genre lui-même, réalisé par des grands metteurs en scène indépendants qui sont aussi des auteurs, eh bien, tout d'un coup, atteignent une dimension peu vue dans le cinéma, et que c'est vraiment les films les plus intéressants sont évidemment ceux-là.
Guillemette.
Non, je veux juste rebondir sur Michael Caine, parce que Michael Caine, les cheveux longs, déguisé en espèce de John Lennon, en train de fumer des joints, parce que lui-même fait sa propre culture. Franchement, rien que pour ça.
Les Fils de l'Homme d'Alfonso Cuarón, un récit d'anticipation à découvrir ou à redécouvrir en DVD, Blu-ray ou sur les plateformes de téléchargement légal. Guillemette, vous avez choisi un autre récit d'anticipation, une contre-utopie, Mad Max. Un extrait de la bande-annonce du numéro 3, Tina Turner.
Alors, qui n'est pas le meilleur, mais bon.
Oui,
mais le plus mauvais surtout.
Oui.
On peut le dire. On avait envie d'entendre Tina Turner, en fait. La série Mad Max avec Mel Gibson est réalisée par l'Australien George Miller, sauf le troisième opus, co-réalisé avec George Ogilvy. Alors, c'est une trilogie qui sort en Blu-ray en mai. Alors, il y a un nouveau Mad Max qui sort en salle le 14 mai.
Et qui va être projeté à Cannes, hors sélection, mais c'est le numéro 4, Fury Road, je pense qu'il y a la moitié de la planète qui a déjà vu la bande-annonce et la moitié de la planète qui a envie de voir le film, du coup. Parce que la bande-annonce est absolument explosive. Mais
pourquoi
c'est vrai
ce choix alors de Mad Max
D'abord parce que voilà, si vous allez voir le 4 en salle, please, révisez les trois premiers. Mais c'est surtout le premier volet qui reste totalement impressionnant.
Pourquoi
juste un petit bout sur le deuxième qui est drôle parce qu'alors il est presque, il est crypto-gay. Hein, ils sont tous habillés en combinaison de cuir moulante avec des plumes partout. Anecdote, les costumiers de Mad Max 2 ont même été en fait dans des stocks de cabaret, mais version Pigalle australien, pour trouver certains des costumes, vous voyez, donc c'est à ce point. Mais après, voilà, c'est le premier volet qui reste d'une violence incroyable. Quand vous disiez anti-utopique, oui, c'est un euphémisme. Là, c'est vraiment, c'est pas que les gens ne font plus d'enfants, c'est que, en fait, les gens roulent sur les enfants à moto, vous voyez, c'est, voilà. Le monde est devenu, un repère de barbarie absolue, tout le monde se bat pour le pétrole, il n'y a absolument plus aucune règle, et au milieu, un homme qui se tait, qui fait pratiquement rien pendant tout le film, parce que quand on revoit le film, on a une espèce d'image, oh, Mel Gibson, l'apparition de Mel Gibson, le premier film et tout, en fait il fait rien, enfin il fait rien pendant les trois quarts du film, il s'énerve un peu à la fin, mais c'est déjà, voilà, c'est une stature, cet homme, en cuir, qui va se battre contre à peu près toute la barbarie absolue autour de lui. C'est d'un nihilisme absolu, c'est plus que rock, c'est punk, désespéré. Et c'est effectivement ce que pourrait être une société quand elle n'a plus d'espoir, plus d'énergie dans tous les sens du terme, c'est-à-dire plus de quoi faire ni marcher sa voiture, ni faire marcher son cerveau. Et ça reste absolument frappant, c'est au ras du bitume. Alors là, pour le coup, la mise en scène, il y a des moments de montage assez insolites, mais tout est au ras du bitume, c'est de la tôle. L'homme devient un mélange de chair et de tôle, en fusion. Et voilà, et ça, il faut le revoir maintenant. Il faut le revoir maintenant avant de voir le quatrième.
Le quatrième qui sort le 14 mai en salle. Éric Libiot, ça vieillit bien Mad Max ?
Oui, ça, d'abord, un metteur en scène qui a réalisé Mad Max et Bebe le Cochon a toute mon admiration. ça, c'est une chose.
Georges Miller.
Ce qui est intéressant, c'est dans la carrière de Georges Miller, c'est qu'effectivement, le premier est d'un nihilisme absolu, comme l'a dit Guillemette, une noirceur, c'est une espèce de polar d'anticipation absolument incroyable. Et ensuite, Georges Miller a été complètement récupéré par les studios, et le 2 et le 3, et le 3 notamment, et l'espèce d'abcès de ce que peut faire Hollywood quand il s'empare comme ça d'un personnage et d'une série absolument étonnante et qu'on voit bien que Miller a un peu perdu la main, notamment dans le 3 où il y a une espèce de boursouflure absolue. Et pour ce que j'en sais, pour ce que j'en ai vu, le 4, donc celui qui va sortir le 14 mai avec Tom Hardy et Charlize Theron, Miller a totalement repris la main. C'est un film qu'il voulait faire depuis 14 ans et je peux vous annoncer que c'est vraiment quelque chose d'absolument étonnant ce qu'il a réussi à faire dans ce numéro-là. Donc c'est intéressant de savoir qu'un metteur en scène a réussi à résister à Hollywood après toutes ces années et peut récupérer la part d'auteur qu'il avait perdue et que Hollywood lui avait ôté.
Et le quatrième opus sera présenté à Cannes.
Le quatrième opus est présenté à Cannes en hors compétition le jeudi et donc est dans les salles également.
Et le quatrième opus, c'est plein de bagnoles, et je pense qu'en fait, c'est ça qui lui a redonné l'énergie, parce que c'est comme le premier. Oui, il y a Charlize Theron, évidemment. Chaud. Ah bah voilà,
complètement
ça.
Chaud. Tanguy de Kerpoisson.
Charlize Theron complètement chaud, ils ont osé.
Elle aura une perruque, ça me dérange pas non plus. Hein.
Ça passe.
Elle a des cheveux très très courts.
Elle est magnifique. Elle est cernée.
Elle vole la vedette à Tom Hardy pour l'instant.
Oui, j'ai l'impression.
L'intérêt de Mad Max, il y en a deux. Pour moi, c'est quelque chose de totalement violent. Et c'est ce que j'aime au cinéma. C'est quand il n'y a pas de fil. C'est quand on arrive à un espèce de décalage super fort avec de la violence. Et deuxième chose, c'est les cascades. Les cascades, il faut aller les voir parce qu'ils sont entourés par des véritables génies. Voilà, c'est une excellente brigade.
Et c'est anti-psychologique. C'est-à-dire, on ne sait pas pourquoi ils sont violents, on ne sait pas ce qui. Enfin, voilà, ça n'a aucune importance du moment qu'ils meurent et qu'ils se cassent la gueule en voiture.
Olivier Bénis, il existe des jeux vidéo Mad Max ?
Il y a un jeu vidéo Mad Max qui doit sortir prochainement, qui a été annoncé justement en même temps que la sortie du Mad Max 4. Ce qui est assez amusant de ce qu'on a pu voir de la bande-annonce, en tout cas du 4 de Fury Road, c'est que on a l'impression que c'est le Mad Max 4 qui reprend les choses qui ont été inspirées elles-mêmes par Mad Max avant. C'est-à-dire que Mad Max, en particulier le deuxième épisode pour le coup, a inspiré visuellement des univers ensuite. Ça a inspiré un peu le manga Ken le Survivant qu'on a vu quand on était gamin. Ça a inspiré, on va en parler tout à l'heure, Borderlands justement, qui est très dans cet esprit-là. Et on a l'impression qu'il a repris ces influences-là, qui reprend la main et qui fait quelque chose de complètement fou. Il y a une scène dans la bande-annonce avec une tornade et des voitures. J'ai envie de voir ça sur grand écran tout de suite.
Allez, on termine, Guillemette, cette cette petite sélection de films d'anticipation avec World War Z, un film de Mark Forster avec Brad Pitt, un film sorti en 2013, disponible en DVD et en Blu-ray. Pourquoi
oui,
ce choix?
Ressort, alors c'est sans doute moins intéressant forcément que les autres, mais
c'est ce que j'allais dire.
Bien sûr, bien sûr, mais je savais que vous le dites. Voilà, donc je le dis avant. Mais non, ce qui est intéressant, c'est un film avec des zombies qui n'est pas un film de zombies. Alors je vous explique, c'est que c'est un film qui va à l'encontre de toutes les règles, enfin en considérant qu'il y a des règles, mais bon, comme le film de zombies est un petit genre, les aficionados sont très sur les règles, c'est très important. Alors effectivement,
comme
normalement,
Carpoisson, ouais,
c'est un film de zombies qui n'est pas à huis clos, alors que normalement tout le monde est toujours enfermé avec un mec qui veut vous bouffer, c'est un film de zombies qui parcourt le monde alors que normalement non, et c'est un film de zombies surtout où les zombies vont super vite. Qu'est-ce qui sont véloces, alors que normalement le zombie c'est mou.
L'histoire en deux mots, guillemets.
Mais, voilà. En fait, c'est une épidémie. Enfin, plus que ça, c'est une pandémie. C'est-à-dire que on ne sait pas ce qui se passe. Tout le monde, le coup de la morsure, ça c'est comme d'habitude. Tout le monde, mais la planète entière, est en train de se zombifier. Et évidemment, il faut un super-héros là-dedans. Un type qui a travaillé à l'ONU avant. Donc, vous voyez, il a toutes les chances de sauver l'humanité. Et donc, c'est Brad Pitt. Très bien brushingé. Avec une famille américaine parfaite.
Vous parlez comme Gad Elmaleh, là.
Voilà, oui, c'est vrai. Hein. Et donc, parce que il veut quand même préserver sa petite famille, il va en profiter pour sauver le monde en même temps. Et alors, mais il y a quand même, des scènes absolument impressionnantes de foule. Par exemple, à un moment, les zombies envahissent Israël. Et franchement, les voir grimper les murs, et tout, là, il y a quand même des moments où on est scotché.
On dirait de l'eau, en fait.
C'est du, oui. C'est, disons que c'est pour à certaines séquences du grand cinéma d'action. Avec zombies, anecdotiquement. Voilà.
Très vite, Tanguy de Carpoisson.
Non, le problème, c'est que le seul conseil que je peux donner avant de voir World War Z, c'est de pas voir The Walking Dead. Parce que la vraie référence, voilà, on connaît tous The Walking Dead, une série de zombies qui passe sur AMC aux États-Unis. C'est violent, c'est sanglant, ça nous fait aimer les zombies et les trucs dégueux, donc allez pas voir World War Z.
Il
y a 28 jours plus tard aussi dans le même genre qui est très tard, ouais. Très bon.
Ça c'est du film de zombies pour les gens qui ont pas trop peur des zombies.
Allez, World War Z, c'était le choix de Guillemette Audicino, un film disponible en DVD et Blu-ray. À suivre dans Pop Fiction, le maître de l'épouvante Lovecraft dans une nouvelle traduction de l'écrivain François Bon, et puis nous évoquerons l'œuvre d'un autre grand maître de la science-fiction, Terry Pratchett, l'auteur des Annales du Disque Monde.
Oh,
C'était Mini Mansions avec Alex Turner qui interprétait Vertigo, l'excellent choix de Muriel Pérez, 20h24 sur France Inter. Et nous poursuivons cette sélection de pop fiction placée sous le signe de la SF, du fantastique et de l'épouvante.
Lovecraft, c'est fondamental, quoi, Lovecraft. Il y a vraiment un avant et un après Lovecraft. Ce qu'il a vraiment apporté de plus nouveau, c'est l'utilisation de matériaux multiples. Des faux articles de journaux, des comptes rendus scientifiques, tout ce genre de choses, qui ne se faisaient pas du tout avant dans la littérature fantastique. Ce fait de se rendre compte que tout texte écrit peut être littéraire, en fait.
Michel Houellebecq évoque le grand maître controversé, parfois, du fantastique, Howard Phillips Lovecraft. François Pont, rebonsoir. Vous proposez des traductions inédites de Lovecraft en point seuil. L'appel de Cthulhu, dans l'abîme du temps.
Cthulhu,
voilà.
Personne n'a jamais su comment le prononcer, mais le grand Cthulhu.
L'appel de Cthulhu, dans l'abîme du temps, ou encore la couleur tombée du ciel. Vous pouvez nous présenter en quelques mots Lovecraft, né en 1890 à Providence, en Nouvelle-Angleterre.
1890, une enfance un peu solitaire, sans école, sous la coupe d'une mère un peu possessive, une grande maison d'une vieille famille, mais qui tombe en ruine, donc on déménage, on revend la maison, pour lui c'est une catastrophe, et puis vers 16 ans, une espèce de passion pour la science, à la fois la poésie, la science, du journalisme amateur, fabriquant sa propre encyclopédie de l'astronomie, glissant petit à petit vers le récit fantastique, avec fascination pour Edgar Poe et tout ça. Et puis dans les années 20, séjour à New York,
de deux ans,
ouais. Mouvement vers complètement identitaire, comme ça, une vieille Amérique qui a jamais existé, d'où toutes ces pulsions aussi, enfin plus que des pulsions, un racisme complètement phobique avéré. Et en même temps, il meurt une espèce de cancer de l'intestin en 1937 sans jamais avoir publié un seul.
C'est ça qui est fou, hein. Ouais.
Et que des choses comme ça dans ces magazines comme Weird Tales. Et depuis 20 ans, aux États-Unis, quand même, une immense constitution de révision, quoi. Ce type fait partie de la grande littérature américaine. Et je pense que ça correspond aussi profondément au fait que jusque-là, tous ces mouvements de l'après-grande dépression, la façon dont les intellectuels même ont constitué un peu Hitler en modèle, l'Amérique n'avait jamais fait sa révision de ça, donc ça permet aussi d'entrer là-dedans.
Alors Lovecraft, qui dormait le jour, écrivait la nuit et qui n'a donc jamais publié, en quoi a-t-il révolutionné la littérature ? Pour vous, Lovecraft, avec Lovecraft se joue une bascule majeure de la littérature ?
Moi, c'est la continuité plutôt, c'est une espèce de grande prose lyrique, mais une espèce de labo. Mais je crois surtout que c'est quelqu'un qui a tellement fui la modernité, et en même temps, il est dans une bascule. Le cinéma, par exemple, c'est Griffith, c'est O'Flaherty, c'est cette espèce de moment où le cinéma devient une espèce de chose première, gigantesque, comme ça, qui invente tous les caméras qui bougent. Et c'est quelqu'un qui... C'est la grande révolution de la radio, c'est le moment où on lance les premières expéditions polaires. Donc il y a une notion comme ça d'inconnu, c'est les travaux d'Einstein. Et donc dans tout ça, c'est cette espèce de truc où quand on fuit la modernité, finalement, il arrive à inscrire comme ça, en même temps, les gratte-ciel, cet éclatement des villes, toute cette espèce, cette planète qui reste en même temps inconnue. Et c'est en ce sens-là où c'est pas une espèce de monde fabriqué à côté, à l'opposé de la science-fiction qui s'invente, en gros, après lui, avec Bradbury et tout ça. Mais... quelque chose pour moi beaucoup plus proche de Kafka finalement, même si c'est un peu scandaleux de les rapprocher.
Plutôt que de science-fiction, on peut parler de fiction surnaturelle.
Lucie, c'est son expression. Ouais. Il y a plein de textes justement. Tout à l'heure, j'entendais Philippe Djian parler de creative writing, de Carver, de Gardner, etc. Lui, il est dans ce mouvement qui invente ça. Comment écrire de la fiction surnaturelle et comment faire surgir le dérangeant, ou même s'il lui appelle ça l'affreux, l'horrible, enfin tout ce qui nous fait peur, en gros, en partant comme ça de petits... Il n'écrit jamais de rêve. Il prend des petits fragments de rêve qui lui semblent symboliques et à partir de là, il fait surgir ça dans le réel, le plus immédiat. C'est ce que disait.
Alors, qu'est-ce qui caractérise la langue de Lovecraft ?
Je crois que je peux lire complètement indifféremment le français et l'anglais. Je lis couramment la correspondance de Lovecraft. Je lis couramment du Algernon Blackwood et tout ça. Et quand je tombe sur un récit de Lovecraft, pour moi, c'est des mots croisés. C'est une espèce de syntaxe à la Mallarmé, des espèces de phrases toujours avec complètement raides, avec un point virgule au milieu, des phrases qui sont des espèces de diptyques, et puis quand on passe comme ça dans ces laboratoires qui sont sur 20 pages, ou ces histoires comme Orthoulou, l'appel d'Orthoulou, qui sont pas des romans, ça fait 60, 70 pages. Et après, il y a deux trucs, Montagne de la folie, qui atteignent, qui passent les 200 pages. Cette espèce d'impression que, sur toute la longueur, chaque phrase a son propre rôle d'engrenage. Là, en ce sens-là, et c'est l'efficacité américaine, mais nous, quelle leçon, quoi.
J'aimerais que vous nous lisiez le premier paragraphe de l'appel de Cthulhu que vous avez traduit, donc, en poche chez Point Seuil.
La chose la plus miséricordieuse en ce monde, je crois, c'est l'inaptitude de l'esprit humain à corréler ce dont il est témoin. Nous vivons sur une placide île d'ignorance au milieu de noires mers d'infini. Cela ne veut pas dire que nous puissions voyager loin. Les sciences, chacune attelée à sa propre direction, nous ont jusqu'ici fait peu de tort. Mais rassembler nos connaissances dissociées nous ouvrirait de si terrifiants horizons de réalité. Et la considération de notre effrayante position ici-bas, que soit nous deviendrons fous de la révélation, soit nous en fuirons la lumière mortelle dans la paix et la sécurité d'une nouvelle ère d'obscurité.
François Bon, comment avez-vous traduit Lovecraft ?
C'est parti d'une journée par hasard à Providence, s'arrêter parce que c'est la ville de Lovecraft, découvrir que là-bas tout le monde s'en fout, on ne sait même pas le truc. Non, mais c'est vrai, même dans les librairies, on n'a même pas trouvé les bouquins de Lovecraft chez lui. C'est la honte, quoi, Lovecraft. Dans les universités, c'est ah, attends, c'est Lovecraft. Et je pense que justement, Houellebecq là a fait un sacré truc avec son petit essai qui était son premier livre, et tombant sur cette maison, une maison américaine complètement banale avec du bois, de machin. Qui est la maison qui a servi de modèle à la maison maudite. Et en fait, du coup, il y avait même un petit panonceau, on en a marre d'être photographié ou tout ça. Mais découvrir que cette maison, la banalité de ce truc-là. Et là, je me suis dit, mais j'ai rien compris à Lovecraft. Du coup, j'ai téléchargé le texte. Toutes ces archives sont dans le domaine public, on les trouve. Et là, je suis tombé sur cette langue. J'ai dit, mais en quoi, si on la prend du côté d'Edgar Poe et du lyrisme et de la grammaire, ce type qui écrit exprès comme ça dans la langue du 18e, pour prendre distance et écrire son contemporain comme ça. C'est-à-dire, j'arrivais pas à le lire autrement qu'avec les mains. Voilà. Et en même temps, pour moi, c'est un espèce d'écosystème. Voilà.
Et quels sont les thèmes fondamentaux qu'on retrouve dans l'œuvre de Lovecraft ?
Thème fondamental, c'est le trou. C'est-à-dire, partout où on est dans une espèce de truc comme ça, une université banale, une vie quotidienne extrêmement... Un truc d'amnésie, accident de bagnole, un truc... histoire, il y a plein de voitures, de radios, de téléphones, de machins comme ça. Et puis, en même temps, si on glisse dans cette petite faille, on découvre qu'il y a une espèce d'infini du temps dessous et que ce truc-là nous enveloppe de... Ça, oui, c'est une récurrence.
Jérémy Chevalier, libraire à Paris, vous avez lu Lovecraft ?
Oui, j'ai lu Lovecraft quand j'étais très jeune. J'ai commencé par un recueil, du coup, qui s'appelle Dagon, qui est très inspiré par... Enfin, effectivement, qui est très mélangé avec plusieurs mythes qui sont dedans, notamment la Cité 10, qui m'a beaucoup marqué à l'époque. Et moi, j'y repasse de temps en temps, parce que c'est pareil, c'est l'univers angoissant, mais nécessaire.
François Bon, pour terminer sur Lovecraft, il est généralement admis, vous le disiez tout à l'heure, que l'œuvre de Lovecraft, à certains égards, est imprégnée de racisme, de xénophobie. Comment se traduit ce racisme et cette xénophobie dans son œuvre ?
Tous ceux qui ont des têtes bizarres et qui apportent le mal viennent d'ailleurs. C'est migration sur la Méditerranée, c'est ouais. Ça. Ceux qui nous arrivent. Et en même temps, quand il vit à New York, il est tout le temps dans le quartier chinois, dans le quartier italien. Ses meilleurs amis, Loveman, est juif et italien. Son épouse est juive. Donc c'est bourré de contradictions.
Mais il est quand même capable d'écrire dans les stations balnéaires du Sud, on ne permet pas aux nègres d'aller sur les plages. Pouvez-vous imaginer des personnes sensibles en train de se baigner à côté d'une meute de chimpanzés graisseux ?
Oui, c'est au premier degré. Ouais. Par contre, si en ce moment je travaille sur son journal de 1925, là je suis au mois d'avril, j'ai vu 4 fois d'occurrence du mot négro dans le New York Times de 1925 au mois d'avril. Oui. C'est-à-dire que la société américaine n'a pas encore même accepté l'existence de ça en tant que... je sais même pas...
Lovecraft, oui, très vite Guillemette au dessin.
Non, on n'a pas parlé quand même de son père qui est devenu fou à cause de la syphilis, etc. Enfin, moi j'avais l'impression aussi que chez Lovecraft il y avait cette peur-là de la démence, ouais. Cette peur d'être, comment dire, enfin voilà, comme de sombrer dans l'inconnu, dans d'autres mondes et tout, c'était aussi une espèce de métaphore de sa peur de sombrer à son tour dans la démence.
Je crois que c'est ce qui se passe aux États-Unis depuis 20 ans avec quelqu'un comme Yoshi et tout ça, c'est justement d'arrêter un petit peu le...
De psychanalyser là-dessus.
Non, mais les légendes qu'on a bâties sur un écrivain maudit après lui, comme cet univers de, justement, de ces espèces de dieux maudits et tout ça, d'Auguste Derletz, qui était son premier éditeur, qui a fabriqué cette légende. Moi, je vois un auteur, pas quelqu'un qui a écrit 30 000 lettres, 2000 cartes postales, qui passait son temps au téléphone, quelqu'un qui est capable de parler technique de l'écriture, de parler très savamment des auteurs. Donc, je crois qu'il faut revenir. C'est aussi ça, l'enjeu, peut-être aujourd'hui, maintenant, quoi.
L'événement Lovecraft, c'est la traduction de François Bon chez Poinceuil. Et alors, sans tradition, Tanguy de Kerpoisson, journaliste geek. Alors vous avez choisi quelques séries surnaturelles sur nos écrans en ce moment, comme Forever, la nouvelle série américaine diffusée sur TF1 à partir de mardi. Pourquoi ce choix ?
Ah bah D'abord parce que c'est un énorme coup de cœur. Je l'annonce, ça va faire le même succès que Mentaliste. Pourquoi ? Parce que c'est un mentaliste en mieux, en beaucoup mieux. Pourquoi ? Parce que ça se passe donc à New York de nos jours. On fait la connaissance avec le docteur Henry Morgan, qui est joué par Johan Groofoud. Alors, je prononce sûrement pas bien le nom, je suis désolé.
Vous êtes à bonne école avec
ceux
moi,
qui connaissent.
Vous êtes à bonne école avec voilà. moi.
Son nom ne dit rien, mais en fait, sa tête parle à tout le monde. Il a fait notamment le Monsieur Fantastique dans les deux films qui sont sortis dans les années 2000. Là, on lui donne le premier rôle. Qu'est-ce que c'est que ce rôle ? En fait, il travaille au service médico-légal.
C'est un médecin légiste ?
C'est un médecin légiste, en gros. Il étudie les cadavres et plus généralement la mort. Alors, c'est une passion un peu étrange, mais elle est explicable. C'est parce que ce monsieur vit depuis 200 ans. Il vit depuis 200 ans, oui et non. Pourquoi ? Parce qu'il est mort plusieurs fois. Il est mort, alors il nous explique qu'il a été pendu, qu'il a été électrocuté, il a tout vécu. Et en fait, il y a un mystère autour de ce personnage, c'est qu'il ne meurt jamais vraiment.
Il revient à la vie de façon assez particulière.
Oui, alors tout nu, à chaque fois, dans une étendue d'eau. Alors on se demande pourquoi, j'imagine que par la suite on va nous expliquer tous les ressorts de cette situation. Mais voilà, donc un personnage assez fascinant qui a énormément de points communs avec notre ami le mentaliste. Déjà, d'entrée, on nous met dans le bain, il arrive dans une rame de métro, il est en train de draguer une jolie blonde, puis il lui dit « Alors, je sais où tu vas parce que t'as une tache ici, je sais ce que tu fais dans la vie parce que t'as les cheveux longs comme ça. »
C'est Sherlock, hein.
C'est Sherlock.
Pourquoi il faut aller au mentaliste ? Pardon, mais...
Parce que le mentaliste, c'est sa spécialité. Et donc, pourquoi lui arrive à résoudre ces problèmes-là ? Parce qu'il a assez vécu, justement, pour appréhender les gens en les observant, en apprenant d'eux. Autre point commun évident avec mentaliste, il a une collègue policière, en fait, qui va rencontrer. C'est une jolie brune, veuve, qui... Donc, on a toujours ce rapport avec la mort assez spécial, avec qui il va vivre plein d'aventures, s'associer, voilà.
Qui a vu Forever autour de la table ?
Non, mais le coup qui renaisse tout nu dans du liquide.
Ah ben ça. Enfin,
alors le liquide amniotique, merci.
Garçon,
alors, si tout le truc est aussi fin que ça.
Alors ça, Tanguy de Kerpoisson, c'est le générique de Powers.
Powers.
C'est une série inspirée de comics américains et c'est diffusé sur une chaîne que je n'ai pas, hein, OCS Choc.
OCS Choc, alors ça fait partie du bouquet OCS, hein, c'est 10€ par mois, donc n'hésitez pas, c'est pas non plus... Une fortune. Non,
qu'est-ce qui fait l'intérêt de cette série fantastique ?
Alors c'est complètement barré. En fait, on arrive dans une ville où les super-héros ont complètement pété un câble. Ils se sont tous reconvertis en super-vilains. Ils commencent à faire du trafic de drogue. Ils commencent à draguer des petites jeunes qui sont pas forcément majeures. Voilà. Donc on arrive avec des super-héros qui ont complètement pété un câble pour lutter contre ces super-héros. Bah, y a plus de super-héros pour combattre les super-vilains. Donc, à qui on demande de faire ça? À une brigade de policiers. Sauf que le problème, c'est que eux peuvent pas vraiment lutter contre les super-vilains. Pourquoi? Parce qu'ils ont pas de super-pouvoir. Donc, on prend ça, ils sont complètement bidons. Tout le monde se fout de leur gueule à la brigade, clairement. Et en fait, on rencontre un de ces policiers qui est, lui, un ancien super-héros convaincu qui a perdu ses pouvoirs pour des raisons qui vont nous être expliquées dans la suite de la série. série, et qui, en plus de ça, a vécu un drame récent. Il a perdu son coéquipier. Et on va lui affilier une petite jeune qui arrive dans la brigade et qui va lui poser des questions sur son passé, sur ses anciens pouvoirs, pourquoi il les a perdus.
C'est une série addictive ou pas ?
Additive, je dirais pas ça parce qu'il faut quand même rentrer.
Dommage.
Non, il faut quand même rentrer dedans parce que si vous voulez, il y a un ton un peu spécial. Il faut savoir que c'est une des premières séries de PlayStation Network qui est le service vidéo de PlayStation et donc de Sony. Donc ils sont encore au stade un peu expérimental. Hein. Ça se voit que c'est pas encore parfait.
C'est bien, vous la vendez bien votre série.
Non, mais faut le dire. Non, mais le...
Que c'était super. En fait.
Non, mais.
En fait, en mais non.
Mais c'est super, mais qu'il y a des ratés.
Plus rien de super. Super pouvoir, voilà. Non. Plus de super.
Non, qu'on s'entende bien.
Tanguy, imposez-vous.
Oui, qu'on s'entende bien. L'intérêt, c'est qu'ils suivent une tendance qui est un petit peu l'anti super héros. Quoi. On arrive sur le ton des Watchmen, on arrive sur le ton de Kick-Ass, de même Misfits, la série anglaise où justement on a des racailles avec des super pouvoirs. Voilà, allez voir Power, c'est intéressant en tout cas.
Power se diffusait sur la chaîne OCS Choc. Réagissez, intervenez sur franceinter.fr. Attention, c'est Flavien Berger, Gravité.
Fiction, Ali Rebéi.
20h43 sur France Inter, une sélection du mois placée sous le signe du fantastique, de l'épouvante et de la science-fiction. Jérémy Chevalier, libraire chez Gilbert Joseph à Paris dans le 18e arrondissement. Vous nous proposez
tout à l'heure un ouvrage de fantasy qui vous a particulièrement marqué, mais évoquons d'abord l'œuvre d'un grand romancier britannique de science-fiction, Terry Pratchett, l'auteur notamment de la saga burlesque Les Annales du Disque Monde, au moins 40 volumes.
Hein, oui, un peu plus de 30.
Sir Terry Pratchett, mort le 12 mars dernier, à l'âge de 66 ans. C'était le romancier préféré des Britanniques, juste derrière J.K. Rowling, d'après un récent sondage. Alors, pour donner une idée de l'univers fou de Terry Pratchett, disons que ces Annales du Disque Monde se déroulent sur un monde en forme de disque, soutenu par 4 éléphants, eux-mêmes juchés sur une grande tortue, le tout flottant à travers l'univers. Ça ressemble à du Monty Python. Hein ?
Ça ressemble tout à fait à du Monty Python. C'est même la meilleure image qu'on peut en donner pour donner envie aux gens de lire Pratchett, ce que je vous enjoins à faire. Pratchett, avant tout, c'est un peu, pour faire un parallèle avec une série comme le Docteur Who, c'est un phénomène en Angleterre qui est incroyable, qui est immense. C'est un des plus gros vendeurs de livres en Angleterre. Il représente quasiment 2 millions d'exemplaires vendus systématiquement. Effectivement, si J.K. Rowling n'avait pas existé, ça serait le premier. Terry Pratchett, pour parler de son univers, il a fait deux grandes étapes qui sont très révérées aussi en France. C'est le Disque Monde, effectivement, et aussi De Bons Présages, qui est un ouvrage qu'il a écrit à quatre mains avec Neil Gaiman, et où là, carrément, ils sont bien entendus, ils ont décidé de faire ça, ils ont carrément réécrit l'Apocalypse, grosso modo, et avec un humour, en fait, bon, comme on a dit, proche des Monty Python, mais l'éditeur d'origine, La Talente, qui fait un super boulot, avait indiqué sur les premières éditions fantasy burlesque. Donc on est plutôt dans de la fantasy que de la science-fiction, parce qu'on est plutôt dans un univers chargé, même au sens propre, de magie. C'est même un des principaux problèmes du Disque Monde. Et qui va subir, en fait, énormément d'influences. Pratchett, on le réduit un peu trop souvent au côté humoristique, mais c'était aussi et surtout un grand satiriste, quelqu'un qui parlait de tous les sujets. Il a abordé à peu près tous les sujets qu'il pouvait avaler.
Immense satiriste de notre monde contemporain, de notre société, de nos institutions. Les Annales du Disque Monde, c'est une parabole de notre société, de notre monde.
C'est tellement une parabole de notre société que dans le dernier ouvrage qui est paru il y a quelques jours, qui s'appelle qui est dans la série La Science du Disque Monde, parle de notre monde. C'est-à-dire que dans l'université de l'invisible, qui est l'université de magie du Disque Monde, une expérience manquée a créé un globe terrestre. Et du coup, Pratchett, sa compagnon de scientifique d'université très reconnue, s'est mis à faire de la vulgarisation scientifique en intégrant notre monde dans le sien. Et c'est une erreur, hein. La Terre est pas ronde, elle est bien plate, le disque est bien plat, et la grande Atwin, puisque c'est le nom de la tortue, dérive vers on ne sait où.
Olivier Béni, vous êtes également lecteur de Pratchett. Au-delà de l'humour, du burlesque, Pratchett, c'est un romancier politique.
C'est un vrai observateur de la société, surtout. C'est quelqu'un qui a une vision qui est un petit peu misanthrope, beaucoup. Enfin, Pratchett était lui-même un petit peu isolé dans son monde. C'était un peu la caricature de l'écrivain barbu reclus dans sa maison. Dans toutes les préfaces des livres, c'est précisé que sa passion, c'est d'élever des plantes carnivores. Et il précise une passion qui n'est pas aussi intéressante qu'on pourrait le penser en disant. Et donc, il est à la fois très cruel avec ses contemporains et il a aussi beaucoup d'affection pour eux. Quand on lit De Bons Présages, ce que je vous invite à lire, mais un million de fois, cet ouvrage est fabuleux. C'est très très optimiste, ça parle d'apocalypse, mais on finit le livre avec un sourire, on ferme la dernière page et on se dit l'apocalypse finalement c'est pas si terrible et puis l'humanité a encore des chances quoi.
Jérémy Chevalier, par quel ouvrage commencer ? Moi je me suis retrouvé devant le rayon Pratchett que vous avez mis en place dans votre librairie dans le 18e à Paris et j'ai pas su par quoi commencer tant son œuvre est prolifique parce qu'il y a à la fois les Annales du Disque Monde, il y a des ouvrages dérivés comme ce guide touristique exhaustif qui raconte la ville de Ankh-Morpork. Je ne sais pas par où commencer. Alors,
si pour entrer dans Pratchett, si on veut commencer le Disque Monde, le plus simple, c'est quand même de partir des deux premiers tomes qui sont... il était jeune quand il a écrit ça. Ce n'est pas forcément les meilleurs de la série, mais ça plante le décor. Et surtout, on peut tester l'esprit Pratchett, l'esprit un peu Monty Python. Donc, tome 1, tome 2, et il faut surtout bien prendre garde à lire les deux d'affilée parce qu'il y a vraiment un cliffhanger quasiment au sens propre à la fin du premier. Et du coup, ils s'enchaînent vraiment. Donc, les deux premiers. Et après, en fait, il y a des personnages types qu'on rencontre au début de chaque cycle. Parce qu'en fait, Il a écrit au fil un peu de ce qu'il avait envie, mais il s'est retrouvé attaché à des personnages comme Mémé Sire du Temps, Nounou Hogg, qui sont des sorcières qu'on découvre dans le troisième volume, justement, où la mort est son élève, parce que la mort, dans le Disque Monde, est un personnage absolument génial. Et d'ailleurs, ce qui a annoncé la mort de Terry Pratchett, c'était la mort du Disque Monde elle-même, sur un tweet qui, j'espère, restera. Mais...
Olivier Bénis,
Moi, je suis rentré dans le Disque Monde par le jeu vidéo. C'est un peu original parce que il a été adapté en 3 jeux, en fait. Il a beaucoup participé au premier, à l'écriture du scénario. Enfin, lui, il disait que, en fait, le script qu'on lui a proposé a été écrit par les producteurs du jeu. Il l'a lu, il a dit, c'est super, mais je vais tout réécrire. Il a tout repris du départ, et il a tout refait. Et il disait que son travail sur le jeu vidéo, c'était principalement, je cite, de crier sur l'ensemble de l'équipe, ce qu'il a fait très, très bien. Les jeux sont vraiment très sympas et très drôles. Ils sont... notamment doublé par Eric Idle, qui est un Monty Python. Donc voilà, la boucle est bouclée, on est revenu au Monty.
Et vous, Olivier, vous recommandez quel Pratchett?
Moi, j'ai une affection très particulière pour le faucheur, que je trouve génial. Et
très drôle sur
Elric,
la mort. Hein.
Très, très drôle. Et la mort, je crois que c'est le seul personnage qui apparaît dans tous les livres du Disque.
Presque tous, presque effectivement. Tous. Il y a quelques-uns dans les romans un peu plus à destination de la jeunesse, où je crois qu'il n'y est pas, mais oui.
Les annales du Disque Monde, immense œuvre d'au moins 40 ouvrages, réédité par l'excellente maison d'édition nantaise, La Talente.
Oui, c'était un de leurs premiers... Enfin, ils ont mis à peine 5-6 ans à découvrir Pratchett et ça a été vraiment un de leurs... Ils sont en train de tout rééditer, justement, de rajeunir les couvertures. Et c'est, en fait, il y a beaucoup de gens qui connaissent Pratchett, de visuellement parlant, dans les librairies, puisque les livres sont tellement... Les couvertures de Kirby sont très marquantes et c'est, ils font un super boulot.
Et, alors, Jérémy Chevalier, dans la marée de romans de science-fiction qui paraissent, vous avez choisi « Servir froid » de Joe Abercrombie, publié par Bragelonne. C'est pas vraiment de la SF, c'est de la fantasy.
C'est plutôt de la fantasy.
C'est l'une des étoiles, Joe Abercrombie, l'une des étoiles montantes de l'héroïque fantasy, saluée par l'auteur de Game of Thrones, J.R.R. Martin. Ouais. Que nous raconte « Servir froid », que vous nous recommandez?
Alors, « Servir froid », ça nous raconte l'histoire d'une... On est dans un monde très militaire qui va rappeler un peu le Trône de Fer, mais après, on imagine la fin du Trône de Fer. Et en fait, c'est un général qui va être trahi, une femme, ce qui est important de noter, qui va être très clairement balancée par la fenêtre et qui va décider de se venger. C'est à la fois hyper enjoué, hyper captivant, c'est un écrivain qui est, on peut rentrer dedans sans problème, c'est hyper divertissant. Et moi, je le recommande vraiment pour ceux qui veulent s'initier, qui ont aimé le Trône de Fer, par exemple. On va retrouver les intrigues politiques, l'humour, il y a des personnages qui vont rappeler un peu Tyrion, tout ça. Et en même temps, c'est très classique. Donc c'est un bon test pour voir si on aime. Et pour la petite histoire, c'est le frère du fondateur de Abercrombie & Fitch. Ah. C'est une famille...
Joe Abercrombie, Servir froid, c'est édité chez Bragelonne et c'est traduit par Juliette Parichet. Il est temps de passer au meilleur jeu vidéo du moment avec Julien Chiez de Gameblog.fr et Olivier Bénis de France Inter. Julien Chiez, parlez-nous de Bloodburn, sorti sur PS4. Un jeu d'une infinie douceur.
Ouh, exactement, quel bon résumé. On parlait il y a quelques instants de Lovecraft, on va y plonger directement, puisque ce jeu a une ambiance fantastique d'une sorte de Londres victorien assez étrange, un monde dévoré, un monde avec une ambiance envoûtante, mais extrêmement crasseuse. On plonge comme ça donc dans une cité imaginaire, lugubre, la cité de Yharnam, et là vraiment, les murs sont suintants, les corps sont noueux, et puis surtout, vous allez souffrir énormément. Mais vous, le joueur, au-delà même de votre personnage. Alors, en fait, c'est le nouveau jeu du père d'une série, la série des Souls. Alors, il y a eu des Demon's Souls, il y a eu des Dark Souls. Il s'appelle Hidetaka Miyazaki. Rien à voir avec le Miyazaki qui, lui, fait des mondes un peu plus colorés. Et c'est globalement, en quelques jeux, devenu l'empereur du masochisme ludique. C'est-à-dire que lui, son credo, c'est... eh bien, vous allez vraiment peiner, avancer doucement, apprendre. C'est très exigeant. C'est-à-dire dans les jeux vidéo actuels où souvent c'est un peu facile, les joueurs se plaignent justement d'une facilité parfois un peu déconcertante. Lui, c'est le postulat inverse. Il faut avancer à tâtons. Vous allez mourir extrêmement souvent. C'est d'ailleurs la phrase que vous allez voir le plus souvent dans le jeu, c'est « vous êtes mort, vous êtes mort, vous êtes mort ». Et jusqu'à quelques jours encore, les temps de chargement pour se relancer dans le jeu étaient déjà une souffrance, puisqu'ils étaient assez longs, on va dire. Il y a eu un patch qui vient de corriger ça il y a quelques jours à peine. Maintenant, c'est plus que 5 à 10 secondes, c'est déjà mieux. Et puis, au-delà de tout ça, c'est vraiment intéressant, parce que du coup, vous allez voir vos adversaires, à chaque fois, du coup, c'est une frayeur, parce que un simple personnage qui va avancer, on en parlait des zombies, assez mollement, est en tant que tel, déjà, un véritable obstacle. Alors, il va falloir l'analyser, voir sa démarche, voir ses techniques de combat, et de voir, comme ça, apprendre de ses expériences et de ses échecs.
Que vaut très vite le jeu graphiquement? Moi, je m'y connais pas beaucoup en jeu vidéo, mais ça m'a l'air un peu vieillot, un peu old school.
Alors, c'est techniquement, c'est peut-être pas le jeu qui va vous en mettre le plus plein vue, mais artistiquement, en revanche, là, il y a une vraie patte, il y a une vraie excellence à ce niveau-là. Alors, j'ai eu la chance de pouvoir me rendre dans les studios au Japon, à Tokyo. Alors, ce qui est étonnant, c'est de voir à quel point dans des studios aussi cliniques, blancs, sans rien sur les murs, sans rien, ils ont réussi à faire quelque chose aussi, je sais pas, organique, vivant et crado, on peut le dire. Donc, c'est assez surprenant.
Bloodborne, c'est un jeu disponible sur PS4. Olivier Bénis, vous avez choisi Xenoblade Chronicles sur Nintendo 3DS. C'est un jeu de rôle assez ambitieux qui vous a fait penser au dessin animé Dragon Ball Z.
Oui, au manga en général, en fait, ce côté très coloré. Alors, c'est très typique du jeu de rôle à la japonaise, hein, vraiment, les ambiances avec des personnages très typés, avec des grands yeux, et des coiffures un peu improbables, des costumes bizarres, et qui évoluent dans des univers complètement fantastiques. Alors là, on est sur un monde, en fait, qui s'est construit sur deux titans gigantesques, qui sont morts tous les deux, qui se sont entretués et la vie s'est développée sur eux, alors sur le genou, sur le pied, sur la tête, un peu partout, avec d'un côté le titan Bionis où ce sont les hommes qui se sont développés et le titan Mekonis de l'autre côté où ce sont les machines, et évidemment tout ce beau monde-là est en guerre en permanence. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce jeu, c'est que c'est un monde qui donne l'impression vraiment d'être immense. Alors c'est pas forcément le cas parce que c'est un peu trompeur, il est pas si grand que ça comme jeu, mais quand on commence en bas du pied du titan, on a vraiment l'impression, on arrive devant ces plaines gigantesques, on se dit j'en verrai jamais le bout, c'est incroyable. Il y a de l'herbe partout et puis il y a une ambiance, vraiment quelque chose de très épique, il y a une musique qui est en permanence, qui vous met dans l'ambiance, les combats sont très très dynamiques. Alors contrairement à Bloodborne, là pour le coup les combats sont presque trop faciles, c'est qu'on a presque l'impression que si on faisait rien, ça se passerait pareil, les combattants attaqueraient tout seuls et ça marcherait aussi. Mais c'est un univers qui est sympa, le scénario est assez agréable aussi, très classique pour du jeu de rôle japonais. Voilà. Le seul petit défaut que je lui trouve, moi, c'est que pour l'instant, c'est le seul et le premier jeu qui est compatible uniquement avec la New 3DS, c'est la nouvelle console de Nintendo. Pour l'instant, il n'y a qu'un seul jeu, donc si vous avez déjà la console New 3DS, vous pouvez le prendre, c'est sympa. N'achetez pas la console que pour ça, ça ne vaut pas vraiment le coup.
Xenoblade Chronicles, disponible sur Nintendo 3DS. Julien Chiez, vous avez choisi Helldivers, qu'on peut traduire par Les Plongeurs de l'Enfer, disponible sur PlayStation. Alors c'est quoi ce jeu? C'est un jeu d'action.
Quelle douce ambiance.
Ouais, douce ambiance. C'est un jeu d'action vu du dessus, hein, où l'on enchaîne les missions à la Starship Troopers.
Alors voilà.
Le film de Paul Verhoeven. Ouais.
C'est vraiment Starship Troopers fait jeu vidéo. C'est-à-dire, ami de la subtilité, passez votre chemin. Néanmoins, quel plaisir. C'est vraiment un pur jeu vidéo. C'est-à-dire que là, on parlait plus, là, il y a quelques instants, de jeux qui travaillent, leur ambiance, etc. Là, on est vraiment dans les codes du jeu vidéo. C'est-à-dire, ce qu'on appelle le gameplay. C'est-à-dire, la manière dont on va jouer, le rythme dans lequel les vagues d'ennemis successives vont s'enchaîner. Et c'est un jeu qui prend toute sa sève, toute sa saveur lorsqu'on y joue à plusieurs. On peut y jouer jusqu'à 4 en simultané, en ligne. Et là, vraiment, il va falloir s'organiser parce que c'est une chose assez rare dans le jeu vidéo. C'est ce qu'on appelle le friendly fire, c'est-à-dire la capacité qu'on a à se tirer dessus. D'habitude, on se tue pas, on est amis. Alors, bah non. Bah, sauf que là, oui. Alors, il faut faire extrêmement attention. Et quand on a les vagues de ces espèces d'ennemis tentaculaires que Lovecraft n'aurait pas aurait pu imaginer, eh bien, il faut s'organiser. Alors, ils vont venir de droite et de gauche. Oui, mais alors, il faut que tu ailles désactiver tel levier. Ah oui, mais même passe pas devant parce que sinon, je vais te tirer dessus. Alors, vraiment, on doit toujours communiquer. Et donc c'est assez jubilatoire.
Helldivers, disponible sur PlayStation. List of things that might kill us keeps getting longer. Olivier Bénis, pour terminer, Tales from the Borderlands. Hein.
Alors c'est un jeu qui est un peu passé inaperçu, mais c'est un peu...
C'est nul. J'ai pas été gâté avec le titre de jeu aujourd'hui. Alors c'est un jeu disponible sur PC, console, iPad et Android. Et pour vous, ce jeu, c'est Tarantino au pays de Mad Max.
C'est un peu ça. C'est à mi-chemin entre Tarantino, Mad Max, le bon, la brute et le truand pour l'histoire. Borderlands, pour situer rapidement, c'est une série de jeux jeux de tir à la première personne avec des petits éléments de jeu de rôle qui marchent très très bien, qui se jouent très bien en coopératif, qui défoulent beaucoup. Et ben là, ils ont décidé de partir de cet univers-là et de faire une vraie aventure, une vraie histoire avec un vrai scénario. En gros, on a Rhys qui est le comptable d'une grande multinationale interstellaire qui s'est installée sur la lune d'une planète qui s'appelle Pandore, qui décide d'aller essayer d'escroquer un petit peu les habitants de cette planète et de récupérer une clé de l'arche. Alors là-bas, c'est un peu le Graal, hein, c'est un peu le truc qu'on peut revendre des millions et des millions de dollars. Il va évidemment se faire lui-même arnaquer par Fiona, qui est l'autre personnage que vous allez jouer, puisque vous jouez les deux personnages alternativement. Les deux personnages racontent leur histoire, alors c'est à base de flashbacks, plus ou moins correct par rapport aux faits, c'est qu'il y en a un qui va se mettre en valeur et l'autre qui va dire pas du tout, ça s'est pas passé comme ça. Et puis c'est vraiment très très drôle, c'est-à-dire que l'écriture est très sympa, on dirait du Tarantino dans les dialogues, dans l'ambiance musicale aussi, il y a une sorte de violence un peu cartoonesque, il y a des enchaînements de situations très rocambolesques, il y a une fraîcheur dans l'écriture et puis un jeu qui commence par les premières minutes avec des héros qui débarquent sur Pandora dans une voiture de luxe, qui s'écrase dans une fausse météorite et qui écrase tout le monde avec cette musique, ça ne peut pas être mauvais.
Il y a pas de musique.
Parce qu'on
est très en retard. Vous pouvez retrouver les références citées sur franceinter.fr à la page Pop Fiction et bien évidemment podcaster Pop Fiction. Aux manettes ce soir, il y avait Benjamin de la Gâtinais et Valentin Azan.